Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 26 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedulia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Le président gambien Adama Barrow regagne son pays cet après-midi.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement ordonne aux fonctionnaires en grève de mettre fin à leur mouvement.
En République démocratique du Congo, l'ONU met en garde contre les violences meurtrières liées au mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo.
Ici à Washington, le président Donald Trump a signé un décret pour, je cite, « sécuriser la frontière sud des États-Unis grâce à la construction immédiate d'un mur ». Le Mexique condamne.
Ne manquez pas notre journal de la CAN qui se poursuit au Gabon, ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le nouveau président gambien, Adama Barrow, doit regagner jeudi son pays. Un retour très attendu depuis sa prestation de serment il y a une semaine à Dakar et le départ en exil de Yahya Jammeh le 21 janvier. Accueilli au Sénégal depuis le 15 janvier à la demande de la CEDEAO, M. Barrow différait jusque-là son retour, invoquant des inquiétudes persistantes pour sa sécurité. L'émissaire spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, accompagnera jeudi M. Barrow de Dakar à Banjul, a-t-on indiqué à New York.
En Côte d'Ivoire, appel sans équivoque du gouvernement aux fonctionnaires qui sont en grève depuis le 9 janvier. Il leur ordonne de mettre fin à leur mouvement, menaçant de le déclarer illégal et de prendre des mesures appropriées. Jacques Aristide.
La grève est prévue de se terminer demain, vendredi, mais pour le porte-parole du gouvernement, les absences au poste de travail, particulièrement dans les secteurs de l'éducation, seront illégales. Bruno connaît de dire que si le travail n'est pas repris, le gouvernement prendra acte de la rupture des négociations et ramènera toutes les parties au texte de loi. Les pourparlers hier entre les syndicats et un comité de dialogue social de la fonction publique étaient considérés comme ceux de la dernière chance. Les grévistes demandent des augmentations de salaire, le paiement de certaines primes et protestent contre une réforme des retraites intervenue en 2012 dont les premiers effets se font sentir chez les retraités. Les évêques catholiques ivoiriens se sont déclarés hier inquiets face aux remous sociaux dans le pays, dénonçant un climat délétère qui risque de compromettre gravement tous les acquis enregistrés. Les grévistes demandent une rencontre avec le président Alassane Ouattara ou avec son adjoint Daniel Kablan Duncan en vue de débloquer la situation.
République démocratique du Congo, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur des violences meurtrières liées au mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Le point avec Eddie Isango.
Le réveil meurtrier de cette secte politico-religieuse basée dans le Congo central, province du sud-ouest de la République démocratique du Congo, inquiète les Nations Unies. Le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bassé, a averti hier que Bundu Dia Congo s'est à nouveau signalé après un temps d'éclipse. 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mardi lors d'une sortie de la secte. Au moins 27 morts pour la plupart de la secte Bundu Dia Congo avaient été enregistrées en 2008 dans une opération militaire. Il s'agissait des représailles des forces de l'ordre après une série d'attaques armées contre des agents de l'État. Les membres de cette secte appelaient la population locale à chasser les non-originaires de la province. Groupe d'opposition religieux sécessionniste très implanté dans la province du Congo central, Bundu Dia Congo ou Royaume du Congo, Anki Congo, prône la restauration de l'ex-royaume Congo qui a connu son apogée au XVIe siècle et dont l'autorité s'étendait sur l'actuel Congo central et sur des territoires aujourd'hui en Angola, au Congo-Brazza et au Gabon.
L'élection du président somalien par le Parlement, qui a déjà été maintes fois reportée, est finalement fixée au 8 février. Le point avec Arzuma Compaoré.
Selon la commission électorale, le nouveau président de la Somalie doit être choisi par les 275 députés et 72 sénateurs tout nouvellement élus. L'élection du chef de l'État était initialement prévue en août, mais a été repoussée plusieurs fois. Les prétendants ont jusqu'au 29 janvier pour déposer leur candidature. Ils s'exprimeront du 2 au 5 février devant le Parlement, qui sera chargé d'élire le président le 8 février. Quelques 14 000 électeurs délégués sur les 12 millions de Somaliens ont voté entre octobre et décembre 2016 pour élire les députés. Parmi les candidats choisis à l'avance par consensus et représentant chaque clan ou sous-clan du pays. Le suffrage universel a été promis aux Somaliens, mais a été abandonné en 2015 en raison de querelles intestines combinées à l'insécurité chronique due aux nombreuses attaques des islamistes Shebab.
L'Organisation mondiale de la santé a désigné hier les trois candidats qui tenteront en mai d'obtenir le poste de directeur général de cette puissante agence de l'ONU, Claire Morin-Gibourg.
Réunis à Genève, les 34 membres du conseil exécutif de l'OMS ont retenu le docteur David Nabarro du Royaume-Uni, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus d'Éthiopie et le docteur Sania Nishtar du Pakistan. Le Britannique David Nabarro fait figure de favori. Monsieur Nabarro, 67 ans, diplômé de médecine, exerce depuis 1999 des fonctions de responsabilité à l'OMS. L'ex-ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom, 51 ans, est soutenu par l'Union africaine. Chercheur renommé sur le paludisme, cet ancien ministre de la Santé veut devenir le premier Africain à la tête de l'OMS. Seule femme sur la liste, la cardiologue pakistanaise Sania Nishtar, 53 ans. Elle travaille depuis 2014 au sein de l'OMS. Le choix du futur patron de la santé mondiale sera décidé par les 194 pays membres de l'ONU en mai. Il prendra ses fonctions le 1er juillet pour remplacer l'actuelle patronne de l'OMS, le docteur Margaret Chan, qui a enchaîné deux mandats de 5 ans depuis 2006.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a signé hier un décret lançant le projet de construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La promesse la plus emblématique de sa campagne. Bagasikura.
We are going to get him out and we're going to get him out fast. And John Kelly is going to lead that way.
5 jours seulement après sa prise de fonction, le nouveau président a par ailleurs signé lors d'une cérémonie au ministère de la Sécurité intérieure un autre décret portant sur une application plus rigoureuse des lois sur l'immigration. Ce second décret prévoit en particulier de limiter l'accès aux fonds fédéraux pour les villes sanctuaires qui accueillent les immigrants clandestins. Il a annoncé la création de davantage de centres de détention le long de la frontière pour qu'il soit plus facile et moins cher d'arrêter et renvoyer les immigrants illégaux dans leur pays d'origine. Interrogé un peu plus tôt sur la chaîne ABC, Donald Trump a réaffirmé que le financement de ce mur, dont la construction devrait débuter selon lui dans les mois à venir, serait payé par le Mexique. Plusieurs personnalités de l'opposition mexicaine ont exhorté le président Enrique Peña Nieto à annuler sa rencontre avec Donald Trump pour protester contre ce projet de mur à la frontière.
Eh bien, le président Enrique Peña Nieto a aussitôt condamné ce projet de M. Trump et s'est engagé à défendre les migrants mexicains. Je regrette et je condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise, a-t-il affirmé lors d'un bref message vidéo diffusé sur son compte Twitter.
Selon le New York Times, l'administration Trump prépare deux décrets qui prévoient la réduction, voire la suppression, de la contribution financière des États-Unis à plusieurs agences des Nations Unies et organisations internationales. Il porte aussi sur la révision d'une série de traités, a rapporté hier le grand quotidien américain.
Les forces israéliennes ont déjoué hier une attaque à la voiture Bélier près d'une colonie au sud-est de Ramallah en Cisjordanie occupée en abattant l'assaillant palestinien. Selon l'armée israélienne, aucun blessé n'était à déplorer du côté israélien.
Des membres de la cellule djihadiste à l'origine des attentats de Paris et de Bruxelles avaient envisagé d'enlever des personnalités pour obtenir la libération de personnes incarcérées en Belgique, dont l'auteur de l'attaque contre le musée juif de Bruxelles. C'est ce que révèle, selon plusieurs médias belges, l'enregistrement d'une conversation retrouvée sur un ordinateur portable abandonné dans une poubelle à Schaerbeek, un quartier de Bruxelles.
Et tout de suite, le journal de la CAN avec Nicolas Pinault sur VOA Afrique.
Encore une fois, Polo Samba, Africa.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Ce mercredi, la grande finale du groupe D entre le Ghana et l'Égypte a donc tourné à l'avantage des pharaons, qui l'ont emporté 1-0. On retrouve tout de suite sur place à Port-Gentil Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Les pharaons d'Égypte entament le match du bambou et concrétisent leur domination dès la 11e minute par Mohamed Salah sur un magistral coup franc à 20 mètres du but ghanéen. S'en suivra une série de ratés de part et d'autre, mais surtout la sortie sur blessure du capitaine des Black Stars du Ghana, Asamoah Gyan, touché à la cuisse droite. Son remplaçant, Jordan Ayew, l'un des fils d'Abedi Pelé, très en vue en seconde période avec Christian Atiou, va multiplier les assauts dans le camp égyptien sans parvenir à battre l'impérial El Hadary, 44 ans, doyen en âge de tous les joueurs de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est donc une équipe égyptienne plus solide collectivement, réaliste et plus expérimentée qui a remporté ce choc du groupe D face à des Ghanéens en difficulté. Avec 7 points et sans encaisser le moindre but en 3 matchs, l'Égypte termine premier du groupe et croisera le Maroc en quart de finale ce dimanche. Le Ghana, deuxième avec 6 points, sera en face de la République démocratique du Congo le même dimanche à OIM. Port-Gentil, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À OIM, le miracle n'a pas eu lieu, les Maliens n'ont même pas réussi à battre l'Ouganda. Un match nul, un but partout, qu'a suivi l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Dans le match des éliminés du groupe D, c'est l'Ouganda qui a ouvert le score à la 70e minute par Farouku Miya d'un puissant tir sur une passe de Denis Iguma. 3 minutes plus tard, Yves Bissouma égalisait pour les Aigles sur un coup franc magistralement tiré. A noter que la pelouse détrempée après une grosse pluie n'a pas facilité la tâche aux joueurs. Pour le coach des Maliens Alain Girès, la prestation des Aigles à cette CAN a un goût d'inachevé.
On a quand même tout au long de cette CAN des difficultés à marquer des buts et à concrétiser les possibilités qu'on a. Ça, c'est lourd comme difficulté, c'est un handicap qui, dans une compétition comme ça, après, pénalise.
Le coach Milutin Sredojevic, lui, n'a pas taré d'éloges au sujet des Grues Ougandaises.
Nous avons abattu un travail extraordinaire. Après 39 ans, jouer contre deux anciens champions et perdre par un but, et mener contre le Mali, nous pouvons maintenant nous mesurer aux meilleures équipes africaines.
Les Aigles comme les Grues ont atteint le terminus dans cette 31e Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Timothée Donangmaï, OIM, VOA Afrique.
Avant-hier, la sensation est venue d'OIM. Vous le savez, le champion en titre ivoirien a été éliminé dès la phase de poule. Pas inspiré, la Côte d'Ivoire a été battue 1-0 par le Maroc, entraîné par Hervé Renard. Les Lions de l'Atlas qui l'emportent grâce à un but d'Alioui. Et cette élimination du champion en titre a inspiré Jules Valentin-Ngoué pour son coup de sifflet.
Le champion sortant qui mérite son nom et sort de la compétition. Une élimination logique au vu de la production moyenne des éléphants depuis le début du tournoi. L'équipe est peu conquérante, dépourvue de joueurs décisifs, tout le contraire de la cuvée précédente. La Côte d'Ivoire est rentrée dans les rangs, confirmant qu'une nouvelle ère a commencé dans le football africain. Les Camerounais Roger Milla et Thomas Nkono sont les rois des années 80. Les années 90 ont, elles, été dominées par les Nigérians de Yekini puis Djedje Okocha, avant d'être remplacés par les Lions Patrick Mboma et Samuel Eto'o. Enfin, ça a été le tour des Égyptiens d'Abou Treïka, auteur d'un triplé historique entre les CAN 2006 et 2010. La génération dorée de la Côte d'Ivoire, avec les Drogba et autres Zokora, a ensuite servi de référence, même si les sacres n'ont pas suivi. Depuis lors, le nivellement des valeurs aidant, la CAN est devenue la propriété passagère d'équipes opportunistes qui ont réussi, l'espace d'une phase finale, à réunir les qualités et le tempérament nécessaires pour enlever le trophée avant de l'abandonner précipitamment. À demain.
Aucun match prévu jusqu'à samedi avant les deux premiers quarts de finale. Burkina, Tunisie et Sénégal, Cameroun. C'est la fin de ce journal de la CAN. Nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Commençons par la Minute Éco, John Linden.
La patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a estimé mercredi à Bangui que la Centrafrique, ruinée par la guerre, pouvait connaître une croissance de 5% par an malgré le ralentissement de l'économie en Afrique subsaharienne. Le FMI va notamment aider le gouvernement centrafricain à améliorer son système fiscal. Rappelons que les donateurs internationaux avaient promis plus de 2 milliards de dollars pour aider à relever le pays lors d'une conférence à Bruxelles en novembre dernier. La Guinée équatoriale souhaite rejoindre les rangs de l'Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP. Si la demande faite par Gabriel Mbaga Obiang, son ministre des Mines et des Hydrocarbures, est acceptée, le pays deviendra le 15e membre de l'OPEP. La Guinée équatoriale est le troisième plus grand producteur de pétrole et de gaz en Afrique subsaharienne, avec 10,6 millions de dollars d'exportation annuelle. Le comité exécutif du Fonds monétaire international a validé un nouveau programme triennal de crédit destiné au Niger au titre de la facilité élargie de crédit. D'un montant de 134,4 millions de dollars, ce programme va couvrir la période 2017-2020 avec un premier décaissement de 19,15 millions dans l'immédiat.
Les 12 pays membres de l'organisation sous-régionale CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, prêts pour une coopération en vue d'une meilleure sécurité dans cette région d'Afrique. Dans une rencontre hier à Goma, les directeurs généraux des services de sécurité des pays membres ont réfléchi sur l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région. À l'ordre du jour, l'ex-mouvement rebelle M23, les FDLR, la LRA et les ADF. De Goma, Charlie Kasereka.
À l'ouverture des travaux, le directeur général de l'ANR, Agence nationale des renseignements de la RDC, s'est exprimé sous un ton d'interpellation sur la nécessité de collaborer et partager les informations entre ces différents services de sécurité de la sous-région pour une meilleure stabilité. Le gouverneur du Nord Kivu, qui se réjouit de cette initiative, demande la réactivation du centre de fusion des renseignements, un cadre censé récolter et traiter les renseignements sécuritaires sur les frontières des 12 pays membres de la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.
La première chose que j'attends, c'est qu'il y ait d'abord une prise de conscience du danger qui guette la région des Grands Lacs par rapport au foisonnement de tous ces mouvements insurrectionnels. Cette réunion va essayer un peu de passer en revue toutes ces questions-là pour qu'au niveau des populations, nous puissions abaisser davantage la tension et que ces services de renseignement rendent compte aux chefs d'État pour qu'à leur tour, ils puissent aider à taire les velléités d'insurrection ou d'agression qui peuvent surgir ça et là.
De l'autre côté, les coordonnateurs des associations de la société civile dans la région du Nord Kivu insistent sur une franche collaboration des pays voisins dans la lutte, rappelant aux participants de la rencontre de ce mercredi à Goma qu'ils doivent faire montre de bonne volonté. Thomas Dakemuit.
Pour moi, il n'y a rien à espérer dans cette réunion. C'est pourquoi j'interpelle les amis des services de sécurité. Il faut qu'ils se rappellent de tous les accords qui ont été signés au plus haut niveau. Il n'y a pas de volonté du côté de nos voisins. Tout ce qu'on a toujours demandé à la RDC exécute, mais c'est de l'autre côté qu'il y a eu toujours des alibis, des arguments, des motifs qui entretiennent les groupes armés contre la RDC.
Les centres de fusion des renseignements installés à Goma en 2012, aujourd'hui par manque de moyens financiers, restent inactifs. La question vient d'être discutée et tous les 12 membres promettent leur contribution pour réanimer ce cadre combien important pour la sécurité des États de la sous-région dans la lutte contre différents groupes armés de la sous-région, entre autres la LRA, FDLR, ADF et les rapatriements des membres de l'ex-mouvement rebelle M23. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Tchad, le mandat des députés à l'Assemblée nationale serait, selon notre correspondant sur place, prorogé pour la deuxième fois consécutive. Au cours d'une rencontre tenue le week-end dernier avec les députés de la majorité présidentielle, le président Idriss Déby Itno les a informés du fait que les législatives ne pourront être organisées qu'après 2019. De N'Djamena, les précisions d'André Kotmadjingar.
Idriss Déby Itno justifie ce report par la situation socio-économique que traverse le pays. Pour lui, la priorité actuelle est de payer le salaire des fonctionnaires à terme échus et non organiser cette élection dont le coût ne peut être supporté en ce moment. Réaction de quelques citoyens.
C'est une législation fantôme mise sur pied pour seulement applaudir et approuver les préoccupations seulement du gouvernement. Donc moi, en tant que citoyen, je ne me reconnais pas dans cette législature.
C'est pas étonnant. Ils vont continuer à percevoir des indemnités pour un travail qu'ils n'ont pas fait. Or, ce sont des personnes qu'on doit mettre à la rue et puis organiser des élections. Nous avons des bons leaders qui sont là, qui ont besoin d'accéder à la magistrature et de gouverner ce pays. Mais s'ils prolongent jusqu'en 2019, c'est une insulte à la classe politique et aux citoyens que nous sommes. Il faut que le chef de l'État revienne sur sa décision. Ce pays-là nous appartient tous. Pourquoi est-ce qu'il va accepter jusqu'en 2019? Entre-temps, on fait comment?
En faisant cela, le chef de l'État est conscient de ce qu'il fait, mais je crois bien qu'il lui aussi est prisonnier de sa conscience.
Moi, je ne vois pas les raisons de proroger encore le mandat des députés. Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée?
Pour Brice Mbaye-Mongedmbaye, porte-parole de la coalition de l'opposition démocratique pour l'alternance et le changement, il n'appartient pas au président Déby seul de prendre un tel engagement.
Nous pensons qu'une telle décision devait être assortie d'un débat politique sérieux ouvert à toutes les forces vives de la nation, puisque notre Assemblée actuelle a dépassé largement son mandat et le peuple n'y croit plus. C'est pour ça que nous rejetons toutes cette velléité qui, pour nous, est une méthode de confiscation du pouvoir. Et nous n'allons pas admettre, c'est pour ça que nous pensons qu'il faut que les Tchadiens se constituent un front de refus pour exiger que des élections soient organisées et que notre Assemblée soit renouvelée.
Baïde Smoul Diaonadi, député de l'opposition, a quant à lui souligné que le chef de l'État est en train de créer une discrimination entre les députés à l'Assemblée nationale.
Est-ce que le chef de l'État ne peut jamais avoir le courage d'être avec les députés un jour pour leur parler comme sous d'autres cieux? Mais il crée des ségrégations, de discrimination. Le mandat parlementaire est de 4 ans renouvelable. Ce qui suppose, après 4 ans, il faut aller aux élections. Mais sous prétexte que nous sommes dans une conjoncture économique difficile, difficile par quoi et comment, le président Déby a intérêt à revoir sa position pour que nous allions aux élections dans un bref délai.
Dans le quartier général des députés de la majorité présidentielle, les commentaires vont bon train, mais ceux-ci refusent de s'ouvrir à la presse. André Kodumadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La directrice générale du Fonds monétaire international a bouclé ce mercredi une tournée de 48 heures à Bangui. La relance de l'économie, l'appui au processus de désarmement et de démobilisation des groupes rebelles et l'appui au retour des déplacés étaient au centre des échanges avec les autorités centrafricaines. De Bangui, Freeman Sepila.
Christine Lagarde s'est entretenue tour à tour avec le président centrafricain, les parlementaires, la société civile, mais aussi avec les étudiants à l'université de Bangui. Le président Faustin Archange Touadéra sollicite l'appui du FMI pour la réalisation du programme DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des ex-combattants et au processus de retour des déplacés à leur domicile.
Le pays a encore besoin de soutien pour aplanir durablement les défis auxquels il est confronté. C'est pourquoi je sollicite à nouveau l'appui du Fonds monétaire international pour la mobilisation des ressources extérieures afin d'appuyer le processus du DDRR, de la réconciliation nationale, du retour des déplacés et réfugiés, le développement économique de l'action africaine et l'appui dans la mise en place du financement du mouvement tel que
un appel qui a trouvé écho auprès de la patronne du FMI. Christine Lagarde a promis l'appui de son institution aux autorités centrafricaines à condition que les actions entreprises profitent à la population.
Sans sécurité, pas de développement. Sans développement, pas de sécurité. Alors, le Fonds monétaire n'est pas seulement cette institution austère et rigoureuse. Bien sûr que les grands équilibres macroéconomiques doivent être rétablis. Bien sûr que l'autorité de l'État en matière fiscale, en matière budgétaire, doit être exercée dans la plénitude de ses fonctions et dans le respect du rétablissement des grands équilibres. Mais il nous appartient aussi, ensemble, de veiller à ce que ces programmes bénéficient à la population de la République centrafricaine. C'est vraiment dans cet esprit-là que nous nous engageons.
Au Parlement, le chef de l'opposition, Anissé Georges Doleguélé, a sollicité du FMI la mise en place d'un plan Marshall pour sauver l'économie centrafricaine. En réponse, Christine Lagarde a réitéré son soutien au pays tout en appelant les députés à la vigilance. Martin Ziguélé, président de la commission finances du Parlement, s'en réjouit.
Son déplacement en Centrafrique est déjà un élément très important qui doit conforter les autorités centrafricaines, conforter aussi les centrafricains que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons être aidés.
Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a ordonné la construction d'un mur le long de la frontière mexicaine en vue de bloquer l'accès aux immigrés illégaux. Lors d'une visite hier après-midi au département de la sécurité intérieure, M. Trump a signé un décret sur l'immigration qui prévoit également un gel de 4 mois de l'entrée des réfugiés aux États-Unis et une interdiction d'au moins 30 jours pour tous ceux qui viennent des pays suivants, Irak, Iran, Libye, Syrie, Somalie, Soudan et Yémen. Une exception cependant, les minorités religieuses en proie à la persécution. Sur ces nouvelles mesures annoncées par M. Trump, Gaby Dorsil a joint Marilyn Suffolk, professeure à Howard University.
Devrait retenir notre attention, c'est surtout le type d'emploi qu'ils pensent que ces immigrés volent, si vous voulez, aux Américains. On remarque assez souvent que ce sont des travaux, des emplois plus ou moins subalternes et en général qui ne sont pas remplis par les Américains eux-mêmes.
Est-ce que par ces mesures, le président Trump a pu au moins satisfaire cette frange de l'électorat qui souhaite qu'il soit plutôt rigide concernant l'immigration?
Oui, absolument. Je pense qu'il y aura des personnes qui seront très satisfaites, des personnes qui ont voté pour lui justement dans cet objectif, dans l'objectif justement de pouvoir limiter l'immigration. Mais à court terme, ils seront très satisfaits. À long terme, je ne sais pas si cela changera énormément, quoi que ce soit, à leur propre vie quotidienne. Parce que les emplois qui sont soi-disant volés aux Américains ne sont pas toujours les emplois qui sont remplis par les Américains eux-mêmes.
Le président, semble-t-il, voudrait limiter sérieusement le nombre de migrants qui entrent ici en provenance de certains pays, question de sécurité. Que vous en semble-t-il? Est-ce que cela contribuera réellement à sécuriser davantage les États-Unis?
À mon avis, non. Les démocrates avaient prévu une immigration venant du monde arabe qui serait extrêmement filtrée. Je pense qu'ils avaient là déjà une solution. Trump a proposé une sorte de registre où devrait s'inscrire chaque personne venant du Moyen-Orient. On ne voit pas vraiment l'intérêt de ce registre, l'intérêt de cette mesure.
Quels secteurs vont être les plus affectés par ces nouvelles mesures sur l'immigration?
Je pense que le secteur agricole qui sera affecté, puisque la plupart des personnes qui cueillent, par exemple, les fruits, qu'il s'agisse de la Floride ou de la Californie, en général, ils sont issus de l'immigration venant d'Amérique latine.
C'était la professeure Marilyn Suffolk qui enseigne à Howard University, ici à Washington.
Dans Washington Forum, ce jeudi, Donald Trump, dès son entrée à la Maison-Blanche, s'est attaqué à la loi sur l'assurance maladie Obamacare et a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique. Depuis, s'en sont suivis plusieurs décrets présidentiels. Un début de mandat marqué aussi par les différentes manifestations anti-Trump massives aux États-Unis et à travers le monde. Alors, jusqu'où ira Donald Trump dans la rupture? Quelles conséquences et quelle est l'influence de ces manifestations? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.